Bonsoir à tous. Ce soir, dans notre magazine L'Agora, parlons vrai. Partenariat Voix de l'Art, représenté par son directeur Nicolas Bernard et FC Radio L'Essentiel. Nous recevons Vincent Gau. Vincent Gau, vous êtes le nouveau président de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'art. Vous avez été élu au fauteuil suprême il y a quelques jours seulement. Je vais tout de suite laisser la parole à Didier Pobel pour une présentation de notre émission. Didier Pobel, éditorialiste au Dauphiné, il fut un temps journaliste. À vous, Didier.
Si l'on devait, Vincent Gau, placer l'entretien qui va suivre sous le signe d'un seul vocable, il est plus que probable que ce serait le mot « élection ». Vous me direz, ce n'est pas très original par les temps qui courent, mais en ce qui vous concerne, il y a double incitation en ce sens. Car l'élection, c'est d'abord la vôtre. Il y a quelques semaines, à la tête de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain, au terme d'une chaude campagne, placée sous un slogan aux très enthousiastes inflexions d'autoproclamation, fier d'être artisan. Ainsi donc, Vincent Gau, vous êtes président. Vous nous détaillerez sans doute tout à l'heure ce que la fonction implique de responsabilité, de chronophagie. La tâche est plus importante que ce que j'imaginais, m'avez-vous avoué, et surtout d'exaltation. Je m'éclate comme un jeune, m'avez-vous confié des propos qui n'ont rien de déplacé, je vous rassure, dans la bouche d'un homme de 41 ans. Chef d'entreprise chauffagiste depuis tout de même 19 ans dans le métier et ayant succédé à son père il y a 12 ans avec auprès de lui 12 employés à Bourque et 3 à Vona après le rachat de l'enseigne Charvin. Oui, vous êtes président et sans passer par les primaires. Vous me voyez venir, impossible de ne pas évoquer le sujet du moment, celui qui mobilise les débats officiels, les conversations familiales, les palabres de bistrot, celui qui fait s'entrechoquer la bonne et surtout la mauvaise foi, y compris sous les involontaires auspices du pape. Un sujet qui ne vous laisse pas indifférent, Vincent Gau, je le sais, vous êtes allé voter au premier tour, vous l'avez annoncé sur Facebook. Où s'est porté votre choix, ça, vous nous le lâcherez peut-être tout à l'heure, mais quelques indices nous laissent percevoir que vous n'êtes pas trop déçu du résultat. Avec cette petite précision à la clé, j'ai des valeurs, mais je ne suis pas encarté. Vos valeurs, elles sont chrétiennes, vous êtes pratiquant, tourné vers l'humanisme. La question des migrants est ainsi une de celles qui retient votre attention, même si elle repose à vos yeux sur ce dilemme, il faut accueillir certes, mais aussi envisager avec pondération les incidences. Je retiens aussi de vous, Vincent Gau, cette définition. Je ne suis pas sectaire, je regarde d'abord l'homme. Irez-vous voter au second tour ce dimanche? Là, c'est moins sûr. Vous hésitez, car si j'ai bien compris, pour vous, comme pour beaucoup d'entre nous, l'élection est pliée. Même si, par-dessus le gouffre séparant en ce moment les sondages et les résultats, il nous faut apprendre à beaucoup se méfier. La démocratie n'est pas une science exacte. C'est ainsi que ce soit chez nous. Ou outre-Atlantique, c'est plutôt surprise, surprise. En Amérique, Donald Trump en est l'arrogante incarnation, une victoire à laquelle, comme nous tous, vous ne vous attendiez pas, tout en considérant qu'Hillary Clinton était simplement la moins mauvaise des deux. En France, la plus flagrante victime de la faillite des enquêtes d'opinion n'est autre qu'un certain Nicolas Sarkozy, dont j'ai bien cru comprendre que vous ne regrettez pas la récidivante présence sur la place publique. Artisan, président, chrétien, humaniste, et quoi d'autre encore, Vincent Gau? Quoi d'autre? Épicurien. Ce n'est pas incompatible avec le reste. Vous vous revendiquez de cette épithète. J'aime ce qui est bon, j'aime découvrir. Tel est votre autre credo. Petite précision, si vous n'êtes pas un cuisinier hors pair, c'est vous qui le dites, vous aimez déguster les petits plats de votre épouse. Rassurez-vous, je n'en parlerai pas aux féministes. Ce que vous appréciez aussi, ce sont les moments conviviaux. Par exemple, boire un verre en écoutant de la musique, un lieu s'y prête tout particulièrement, à Mâcon, ce n'est pas très loin de votre commune de Polia. Où vous participez, nous reviendrons dans la quatrième partie de l'émission sur votre instrument de prédilection, où vous participez, disais-je, à l'atelier rock, chauffe le chauffagiste, de l'école de musique, avec la satisfaction de voir auprès de vous votre fille de 12 ans, l'aînée de vos 4 enfants, jouer, elle, et ce n'est pas si fréquent, du corps d'harmonie. Du corps d'harmonie, vous en aurez besoin aussi, Vincent Gau, autour des 5 années qui viennent, sinon du corps, du moins de l'harmonie, vous en aurez besoin pour mener à bien votre projet de travailler sans fusion ni absorption, vous assistez là-dessus, de travailler avec les chambres de commerce et d'agriculture. Du chaud, là encore. Pour terminer, j'ai retenu cette aspiration très prudemment volontariste que vous formulez ainsi. J'essaye d'avancer. Avancer, autre nom s'y prête. Je ne sais pas ce que Go veut dire en bressant de Viria, où vous êtes né, ou dans le Buget d'où est originaire votre père, mais dans la langue de Shakespeare, Go, ça signifie « en avant ». L'amateur de rock que vous êtes me permettra de conclure en parodiant Chuck Berry, « Go, go, Vincent, go ».
Go, go, Didier Pobel, bravo, c'est bien. Merci Didier. Vincent, Go, quelle réaction à ces quelques propos de notre ami Didier Pobel?
Déjà, bonjour à tous. C'est le portrait, moi je le trouve parfait. En quelques minutes, il a évoqué un petit peu toutes les facettes de ma personnalité. Donc, voilà. Mais oui, ça reflète bien le personnage.
Nous allons faire une première pause.
Dans notre émission L'Agora parlons vrai,
nous recevons Vincent Gau, 41 ans, et président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain. Vincent Gau, Nicolas Bernard de Voix de l'Ain va vous poser la première question de cette soirée.
Vincent Gau, bonsoir. Vous venez d'être élu donc à la tête de la Chambre de métiers et de l'artisanat après 17 ans de présidence de Pierre Cormorèche. Le grand public ne vous connaît pas tellement. Didier vient de dresser quelques traits de votre personnalité. Ma première question est donc assez simple. Elle consiste à savoir quelle est votre ambition, en tout cas celle qui vous anime en tant qu'artisan, mais aussi en tant qu'homme.
Alors, c'est vrai que je suis peu connu, je pense, auprès du grand public. J'ai pourtant un parcours déjà consulaire assez important, puisque j'attaque mon troisième mandat. J'ai fait un premier mandat en tant qu'élu, on va dire classique à l'Assemblée Générale, deuxième mandat en tant que premier vice-président de Pierre Cormorèche. Et donc, sur ce mandat, mes collègues artisans ont souhaité me mettre à la présidence. Donc, je connais bien le système des chambres des métiers et des chambres consulaires, puisque j'ai pratiqué et j'ai eu la chance de travailler aux côtés de Pierre Cormorèche, avec qui j'ai beaucoup d'amitié, qui m'a donné beaucoup de délégations pendant ce précédent mandat pour me préparer à cette présidence. Voilà.
Mais cette présidence, vous la désiriez? Ce qui vous a animé? Pourquoi?
Alors oui, je la désirais, parce qu'en étant Pierre, comme je vous le disais, m'a donné beaucoup de responsabilités qui fait que je touchais vraiment du doigt tous les dossiers. Et donc pour moi, c'est un peu l'aboutissement d'être président de cette chambre consulaire. Oui, tout à fait. Oui, je l'avoue.
Vous avez 41 ans, on aurait pu se dire, bah, une présidence comme ça, c'est un truc de vieux. Alors pourquoi un gamin de 41 ans se lance? Parce que vous avez peut-être autre chose à faire dans votre vie, voilà.
J'ai une belle entreprise, donc moi je pense que ce qui est important à mon âge, c'est que je reste un professionnel élu et pas un élu professionnel. Donc ma force, c'est d'être en activité tous les jours, tous les matins avec mes salariés et de pouvoir après représenter et défendre l'artisanat parce que je le connais au quotidien. Donc pour moi c'est une suite logique quand on a été vice-président de passer la main et de prendre la présidence, ça me permettra de mener vraiment les dossiers avec une équipe.
Alors vous êtes parti pour combien de mandats, Vincent Gau?
Pour l'instant, le premier. Après, on verra. On va déjà faire les 5 ans et puis après, on verra ce qui se passe.
Vous êtes secondé par un premier vice-président. Hein. Vous pouvez nous rappeler son nom?
Oui, j'ai Pierre Giraud avec moi, qui était aussi donc vice-président avec moi sur le précédent mandat.
Alors, pour cette élection, on va faire un petit flashback. Hein. Deux listes étaient engagées. La vôtre, appelée Fier d'être artisan, soutenue par la CGPME et la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Et vous étiez opposé à celle de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, qui, elle, était conduite par Françoise Desprez. Hein, ouais, qui est paysagiste et qui doit être, je crois, installé à Aviria.
Meillona.
Alors, sur le fond, qu'est-ce qui vous différenciait l'une de l'autre, au-delà, bien entendu, des individus?
Alors, déjà, quand j'ai monté cette liste, il y a un peu plus de 6 mois, j'avais pas d'obligation par rapport à ce qu'on appelle l'étiquette, c'est-à-dire le parti. J'ai pu monter une liste avec des gens qui me ressemblaient, des gens dynamiques, des professionnels, des artisans qui travaillent au quotidien. Donc c'était important, ce qui n'est des fois pas possible sous d'autres étiquettes.
Sous certaines étiquettes style UPA.
Voilà, oui, tout à fait.
Donc, a connu CAPEB?
Oui, j'ai été à la CAPEB pendant près de 15 ans, mais à un moment donné, c'est vrai que je me suis pas ressenti dans les idées de la CAPEB, et j'ai trouvé auprès de la Fédération française du bâtiment, ça se reprochait plus en fait de mes idées, de mes opinions.
Alors qu'est-ce qui vous différenciait pendant cette campagne?
Alors la différence, la première, c'est que moi je suis favorable à un rapprochement entre la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Ce qui n'est pas le cas de l'UPA, qui souhaite garder une vraie indépendance des deux chambres. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on a 60% de nos ressortissants qui sont à la fois à la CCI et à la CMA, il faut je pense être intelligent et se dire qu'à l'avenir il risque d'y avoir plus qu'une chambre, et puis l'intérêt du chef d'entreprise, il s'en moque complètement qu'il y ait deux chambres. L'important, c'est qu'on puisse lui proposer des choses pour son développement. Donc là on avait un point très important, un point vraiment on va dire on n'était pas d'accord. Le deuxième point aussi, c'est par rapport au dialogue social, sur lequel moi je suis complètement contre l'idée que les syndicats de salariés interviennent dans les petites entreprises de moins de 10 salariés, parce que le chef d'entreprise, il est au quotidien dans son entreprise, il n'a pas besoin d'avoir des syndicalistes, quels qu'ils soient, CGT ou autres. Les syndicats sont nécessaires dans les grandes entreprises, dans les moyennes entreprises, mais dans nos petites entreprises, ça ne l'est pas. Donc moi je défends vraiment cette idée-là, le chef d'entreprise artisanale doit rester patron chez lui.
La campagne a été rude, vous l'avez emporté avec 55% environ des voix contre 45% à votre adversaire. Mais au moment de la distribution des postes au bureau, vous n'avez laissé aucune miette. Vous l'expliquez comment? Pourquoi?
Ma logique, elle est simple, mais je pense qu'elle est comme toutes les élections politiques, que ce soit au conseil départemental ou au conseil régional. Je me suis entouré dans mon bureau de gens qui me ressemblent, avec qui on pouvait avancer. Par contre, j'ai laissé complètement ouvert sur tout ce qui est commission et présidence de commission. J'ai proposé à l'UPA des places, qu'ils ont pour la plupart refusées, mais je me suis entouré avec mon bureau des gens de ma liste, ce qui est complètement logique si on veut mener à bien une politique et un programme.
Je vais citer Didier Pobel, qui vous citait lui-même. Vous n'êtes pas sectaire, vous regardez d'abord l'homme. Le problème, c'était peut-être qu'en face de vous, vous aviez une femme.
Ah, pas du tout.
Non.
Ah non, pas du tout. Ah non,
c'est un peu taquin, hein, bon.
Non, ben je comprends. Non. Ah non, pas du tout. C'est pas une question de personne. C'est que à un moment donné, je pense qu'on n'était pas sur la même ligne et puis la même idée. Moi, je défends vraiment l'idée de professionnel élu et pas d'élu professionnel. Et je pense que ma liste, c'est exactement ça. Quand on a des gens comme qui travaillent avec moi, comme Laurent Péréal, comme Nicolas Tonin, comme c'est tous des gens qui sont bien dans leur basket, qui sont bien dans leur territoire et qui représentent l'artisanat. Et avec l'UPA, je n'aurais pas pu les intégrer à une liste. Donc c'est pour ça que j'ai créé la mienne, et avec des gens bien et sur le territoire. Mais à un moment donné, il faut bien sûr des soutiens, qu'ils soient financiers ou des structures. Et c'est pour ça que la Fédération française du bâtiment et la CGPME m'ont soutenu en croyant à ce projet.
On reviendra tout à l'heure sur ces deux soutiens qui ont fait couler aussi pas mal de salive par-ci par-là. Pour rester sur le même registre, Pierre Cormorèche, lui, avait réussi à établir un consensus. Au départ, c'était compliqué, deux listes, il l'avait emporté, les deux mandats qui ont suivi, il avait réussi à faire une liste unique. Est-ce que vous auriez peut-être pu essayer d'en faire autant, parce que vous vous inscrivez dans le sillage de Pierre Cormorèche?
Alors oui, j'ai essayé de faire autant, puisque fin d'année dernière...
Et le consensus avait profité à la chambre, à la sérénité.
Moi, j'aurais vraiment souhaité, puisque entre guillemets, on veut pas dire que c'était écrit, mais Pierre, j'étais sur le principe son dauphin, hein, donc ça devait se passer, on va dire, comme ça. Sauf qu'à un moment donné, quand vous allez voir toutes les composantes de l'artisanat, et puis qu'on vous donne un refus catégorique d'intégrer d'autres personnes que celles de son parti, ce qui a été le cas concrètement... avec la liste d'en face, moi j'ai pas pu accepter. Donc à un moment donné, j'avais une ouverture avec la Fédération française du bâtiment et la CGPME qui fait qu'on n'a pas trouvé d'accord. C'est regrettable parce que au moment où l'élection est passée, faut se mettre au boulot et on a énormément de travail et c'est regrettable. Mais je pense que on est les artisans, en tout cas l'UPA et les composantes qui me soutiennent, on est plus intelligents que tout ça et on va se remettre au boulot ensemble.
Mais quand même. Il y a 6 ans, 15% de taux de participation. Cette élection, 12%.
Mmh.
C'est rude.
Ah, c'est rude. C'est même... moi, j'en suis pas fier.
Il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Moi, j'en suis pas fier du tout.
Alors, qu'est-ce qui tourne pas rond, comme dit Nicolas Bernard?
Alors, qu'est-ce qui tourne pas rond? Alors, juste un détail. Il y a eu plus de votants, mais comme l'assise était plus importante, il y a beaucoup plus d'artisans qu'il y a 6 ans, mais on a fait un peu plus de votants. Mais malgré tout, on peut pas se contenter de ça. Et moi, je trouve ça regrettable et ça me fait pas plaisir. Les artisans par nature sont très individualistes, donc ils ont beaucoup de mal à se projeter pour leur chambre. Alors en plus, on a un problème de lisibilité. La plupart des artisans savent pas quoi faire une chambre de métier, une chambre de commerce.
C'est embêtant, ça.
C'est très embêtant. C'est-à-dire que pour eux, on vient s'immatriculer, on vient voir une fois la chambre quand on se crée, et on vient voir une fois la chambre des métiers quand on part en retraite. Et au travers les contrats d'apprentissage.
Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas assez à leur côté?
Je pense qu'il faut qu'on sorte de nos murs, il faut qu'on dépoussière notre modèle. On est assis sur un système régalien qui, pendant de nombreuses années, fait que la Chambre, elle avait quelque part un fonctionnement, elle avait des moyens, etc. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec 12% de votants, c'est catastrophique. Mais on n'a que la... On récolte que ce qu'on a semé. Moi, j'ai honte d'un résultat pareil. Mais j'espère que dans les 5 ans qui arrivent, on va réussir à changer un peu la donne et que les artisans adhèrent et viennent à la Chambre des métiers. Parce qu'ils cotisent pour ça. C'est la maison des artisans.
Une question, plutôt une réflexion. Vous avez 41 ans, vous nous l'avez rappelé, donc vous êtes un jeune président. Quand on a 41 ans, on se dit pas finalement la Chambre de métiers, c'est peut-être une chose qui n'est pas, comme on dit, moderne, entre guillemets, ou une chose qui serait peut-être à réformer. Vous êtes un réformiste, vous vous dites pourquoi pas l'unir avec la Chambre de commerce. À 41 ans, quelle est la vision de la Chambre de métiers?
Moi, je pense qu'on a énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a laissé faire le temps, comme je disais, parce qu'il y avait des moyens. Moi, je pense qu'on a... C'est le dernier bastion contre la politique politicienne. C'est quand même la représentation, les chambres consulaires, des professionnels. Elle est gérée par des professionnels. C'est le dernier moyen pour nous de s'exprimer auprès des pouvoirs publics. Donc elle a un rôle primordial. On représente, c'est l'ensemble des forces économiques du pays. Donc je pense qu'on a une force énorme, qu'on nous sous-estime, mais je pense qu'on a capacité à faire des choses et à montrer qu'on a ces moyens de le faire.
Vous avez 5 ans devant vous pour essayer de faire. Est-ce que vous avez des pistes pour essayer de faire en sorte que les artisans du département se réapproprient ou s'approprient cette chambre?
La première des pistes, c'est qu'il faut qu'on sorte de nos murs. L'artisan, c'est pas, on doit pas l'attendre, on doit pas rester assis dans nos bureaux et l'attendre. C'est à nous d'aller voir l'artisan. Aujourd'hui, à peine 10% des artisans profitent des services de la chambre. Donc il faut réellement qu'on démontre ce qu'on sait faire, mais il faut qu'on aille leur montrer. Donc dès le début du mandat, on va renforcer notre présence sur le terrain auprès des entreprises artisanales. C'est la première des choses, pour qu'on démontre et surtout que les artisans se servent de nous, parce qu'ils cotisent pour ça.
Je vais vous faire un petit peu plaisir, Vincent Gault. Le micro-trottoir que nous avions diffusé en présence de Pierre Cormorech laissait apparaître au contraire que les artisans qu'on avait croisés, rencontrés, interrogés, connaissaient la Chambre et se félicitaient d'avoir eu affaire à un moment ou à un autre, souvent dans le cadre de leur formation. Et ils se félicitaient des services de la Chambre. Vous voyez, il y a peut-être peu de choses à faire pour que ça démarre.
Comme je disais, 10% à peine des entreprises qui l'utilisent, les 10%, c'est 10% de satisfaits. Et ces gens-là y reviennent. Il y en a quand même 90% qui n'utilisent pas nos services.
Mais vous dites que vous êtes une force. Une force, ça peut être soit une force de projection, soit un rempart. On a un peu l'impression, ou souvent quand on entend des élus consulaires, qu'ils sont un rempart. C'est-à-dire qu'on défend les acquis, on s'oppose. Voilà. En quoi vous pouvez demain être une force de projection? Je parlais avec M. Cormorech de l'ubérisation de la société. C'est quelque chose qui vous frappe en plein. En quoi vous allez pouvoir accompagner les artisans en vous projetant dans cette nouvelle économie?
Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on a un système qui est poussiéreux. Je suis bien d'accord avec vous. Comment on va se projeter? C'est que moi, à 41 ans, je vis les problématiques au quotidien. Donc, c'est clair, il va falloir qu'on donne des clés aux artisans pour répondre aux projets de demain. Ça veut dire qu'on a basé, je veux qu'on renforce l'innovation, par exemple. C'est-à-dire que l'artisan qui innove, il remporte des marchés et il a une entreprise qui évolue. Il y a plein de sujets sur lesquels on a moyen de le sortir de chez lui et de ce marasme qu'on peut entendre.
Je vais vous enquiquiner encore un petit coup sur les élections. Pendant les différents votes pour la constitution du bureau de l'exécutif, on s'est rendu compte, alors vous avez fait le plein, hein, il n'y a pas de souci, les 18 voix étaient là, il n'y a pas de problème. En revanche, à partir du moment où vous avez dit non, on ne donne pas de vice-président ou de poste à responsabilité au bureau à l'opposition, vous avez perdu une voix, deux voix. Ça vous a perturbé, ça vous a inquiété, ça vous...
Ça vous interpelle aujourd'hui avec le recul?
Non, parce que dès lors que l'ensemble des
vous
élus...
Vous avez identifié le gain de long de
non,
service?
Non, mais c'est pas un problème. Ça. Comme les 18 membres de ma liste qui ont été élus sont... Plus des deux tiers sont sans étiquette. Après, il y a une notion personnelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui était de ma liste, mais qui a une affinité particulière avec une personne, ou pas. Donc moi, ça me choque pas. Moi, là-dessus, je suis pas un dictateur, loin de là. Donc, bien sûr que c'est toujours un peu... ça peut être embêtant, mais non, moi ça me perturbe pas ça. Et ça m'a pas perturbé.
C'était récurrent, hein, chaque poste présenté, hop, une voix de moins, ou deux ou trois fois, deux voix de moins.
Mais dans ma liste, et dans les membres du bureau, de mon bureau, vous avez des gens de l'UPA?
Oui, tout à fait, absolument, il faut le dire.
Il faut le dire, hein, la présidente des coiffeuses, Geneviève Bernard, est dans mon bureau, elle est UPA. J'ai pas de souci avec ça, donc c'est pour ça que c'est... Moi je dis de mon côté que c'était une liste d'où... Et pas de fermeture, pas du tout.
Alors, restons sur l'ouverture. Et l'ouverture à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un des projets de votre liste, c'était un argument de campagne. Mais pour se marier ou pour se rapprocher, il faut être deux. Alors, récemment, le président réélu de la Chambre de commerce et d'industrie, il était réélu la semaine dernière, Jean-Marc Bailly, quand je lui ai parlé de ce rapprochement, il a bougonné, c'est peut-être pas encore le moment. C'est peut-être un peu tôt, c'est pas encore le moment, ça m'étonnerait que ça se fasse.
Oui. Avec Jean-Marc, on est proches. C'est pas une fusion, hein. Je pense qu'il faut pas tout mélanger.
Un rapprochement, j'ai posé mes mots.
Donc je pense qu'il faut être efficient. Nicolas Bernard parlait de notre modèle un petit peu poussiéreux, et ça j'en suis d'accord. Et à un moment donné, quand il y a redondance, quand vous avez des développeurs, par exemple sur l'écologie, sur le développement durable, vous avez le même technicien de chaque côté. Et que le technicien de la chambre appelle le lundi l'entreprise et que le mardi c'est celui de la CCI, à un moment donné ça peut pas fonctionner comme ça. Donc moi c'est ça, c'est que dans un premier temps il faut déjà que sur une grande partie des sujets qu'on soit plus efficient au service des entreprises, à un moment donné que ce soit une seule et même chambre qui appelle le chef d'entreprise, c'est-à-dire
faire... entendu par Monsieur Bailly.
Ah ben Jean-Marc il m'écoute et je crois d'ailleurs que dans ses vice-président et dans son bureau, il y a quelqu'un qui va travailler sur ce rapprochement avec la Chambre des métiers. Après, c'est pareil, il faut un peu de temps. Moi, j'ai une vision d'avenir et de toute façon, je suis persuadé que si on ne travaille pas ce rapprochement, l'État va nous l'obliger. Donc, au lieu de le subir, il faut qu'on y travaille et qu'on soit prêt à faire une proposition dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans, à se dire, ben voilà, nous on est prêts, on est prêts à créer une chambre économique.
Vous faites comme si vous étiez proactif, mais finalement c'est la situation économique qui vous rend proactif, c'est la diminution des moyens qui vous fait réfléchir et qui pousse finalement, ou demain ou après-demain, à arriver à ce résultat-là.
Non, c'est pas... Bien sûr que ça nous oblige à ça, enfin moi je suis dans cet esprit, mais... Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on a...
Bah, expliquez-le alors.
C'est un choix politique plus autant que économique.
Ouais, c'est un choix politique.
Et stratégique.
Parce que moi, j'utilise les services de la chambre. Je les ai utilisés. Et à un moment donné, c'est vrai que je vois bien que ça peut pas continuer comme ça. Et on paye tous des taxes. Donc à un moment donné, cette taxe, elle doit être utilisée de manière efficiente. Voilà.
Alors vous arrivez dans un contexte compliqué, enfin il y a la régionalisation qui est en marche. Comment vous projetez, vous, président, dans ce contexte d'aspiration des chambres finalement au niveau régional?
Alors c'est pas une aspiration, c'est que aujourd'hui on est obligé, donc la loi nous a obligé à fusionner donc Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée que j'en ai, moi, de la régionalisation, c'est de régionaliser les fonctions support. C'est-à-dire que, par exemple, que toutes les salaires, les payes, la comptabilité, la gestion soient gérées au niveau régional. Par contre, je suis persuadé que notre chambre départementale doit être forte. Parce qu'au final, c'est la chambre départementale qui fait les actions auprès des entreprises. Alors qu'on régionalise sur toutes ces fonctions, c'est de l'efficience, c'est de l'économie. Mais cette économie, on doit la mettre au service des entreprises sur le territoire.
Vous aurez moins de moyens sur le territoire aussi pour mener des actions.
On n'aura pas moins de moyens, puisqu'en fait, on va régionaliser tout ce qui est service paye qui sert à rien pour
l'interne, tout ce qui est interne.
Tout ce qui est interne, ça l'artisan il y voit pas. Donc non, on perdra pas du tout, c'est pas vrai. Je pense qu'on va surtout enlever tout ce qui nous prend du temps et régionaliser tout ça. Et par contre, non, se renforcer sur l'action.
Nous allons marquer une nouvelle pause et nous reprendrons ce sujet de la régionalisation dans la troisième partie.
Émission L'Agora par l'Ombre. Nous recevons Vincent Gros, président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ain. Vincent Gros, il y a quelques minutes, Nicolas Bernard vous titillait sur la régionalisation, sur la possible mutualisation de certains services. Est-ce que vous avez pris la température justement à l'intérieur de ces services depuis votre arrivée? On sait que la Chambre de commerce a pratiqué déjà par la réduction de postes, parce qu'en fait, ils n'ont pas attribué une vingtaine de postes existants, ce qui signifie la même chose, ils font des économies, quoi. Est-ce que, dans vos services, vous sentez une inquiétude ?
Alors, dès lors qu'il y a une nouvelle mandature, il y a de l'inquiétude auprès des salariés. Alors, moi, ce qu'on a prévu avec le bureau, on s'est donné jusqu'à Noël pour faire le point sur les services et le personnel. Je me suis donné déjà 15 jours pour rencontrer tous les directeurs de service, pour les écouter, de manière à écouter leurs aspirations, leurs ressentis, savoir ce qui est bien, moins bien. Et l'idée, c'est de faire un scénario. On discutera en bureau au mois de janvier pour voir si on a du personnel. Il y a quand même 41 salariés à la Chambre des métiers de l'Ain. Voir si on a du personnel qui est peut-être sous-exploité entre guillemets, même si tous travaillent de manière très bien, mais il y a peut-être des choses qu'on fait peut-être un peu trop et puis d'autres pas assez.
Donc, une organisation. Voilà,
l'idée c'est une organisation pour qu'on soit vraiment au contact de l'artisan, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça c'est un travail qu'on va mener et qu'on va discuter en bureau au mois de janvier. Parce qu'il y a avant toute chose, avant d'aller faire des partenariats avec le conseil départemental, avec la région Rhône-Alpes, Auvergne, avec des partenariats privés, il faut déjà qu'on ait une structure qui soit, entre guillemets, qui ait pas de trou, c'est-à-dire qu'elle soit rentable, elle soit efficiente. Donc, comme dans une entreprise privée, si vous voulez, j'applique le modèle que je m'applique chez moi.
Est-ce que vous avez un échéancier, un calendrier pour cette régionalisation ? On en parle beaucoup, mais précisément, on voit pas bien.
Bah, l'échéancier, c'est la loi qui nous l'a imposé en 2014, où la loi nous imposait que toutes les fonctions support soient régionalisées. Ce qu'on appelle la fonction support, c'est la paye, la gestion des ressources humaines, etc. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Ça se fera l'année prochaine. On est un petit peu en retard parce que pourquoi ? Parce qu'au niveau région, au niveau président de département, on n'a pas tous la même idée, la régionalisation. Donc, ça se fera courant l'année prochaine. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a aujourd'hui la majorité, puisque la présidence de région Auvergne-Rhône-Alpes est fière d'être artisan.
Et vous siégez vous-même au bureau Auvergne-Rhône-Alpes ?
Oui, tous les présidents siègent au bureau.
Avec une responsabilité précise ?
Oui, sur l'aspect tout ce qui est économie.
Mais vous n'êtes pas dans l'exécutif serré ?
Non, en fait, j'ai pas souhaité. Alors, il y a des bureaux hors bureau, hein, réguliers, puisque je fais partie de la majorité qui a gagné ces élections, même au niveau régional. Moi, je souhaitais vraiment, je l'ai toujours dit dans la campagne, m'occuper de mon département en priorité. Je n'ai pas le temps, c'est pas mon métier, je le rappelle, tous les matins, je suis dans mon entreprise, il faut que je fasse tourner mon entreprise. Donc, je ne peux pas tout cumuler, et je veux m'occuper de mon département, et que la région nous aide, bien sûr, mais je ne veux pas jouer sur tous les tableaux.
Est-ce que ce n'est pas prendre un risque tout de même lorsque la régionalisation se profile de plus en plus précisément, est-ce que ce n'est pas prendre un risque de ne pas se faufiler et occuper une fonction stratégique, votre prédécesseur avait été président, hein, un temps, alors sans être président régional, mais vice-président, secrétaire, trésorier.
Je suis dans l'équipe majoritaire, donc malgré tout, je suis entendu, j'ai un passé entre guillemets, et étant déjà président de la commission économique sur le dernier mandat, on va me redonner l'économie qui est quand même le nerf de la guerre. Donc je pense que l'un sera entendu.
J'aimerais vous poser une question qui est d'actualité, mais finalement elle l'est souvent. Cependant, ce matin, il y a un artisan qui réagissait un peu fort, et d'ailleurs son intervention a été reprise sur les réseaux sociaux et sur le web aujourd'hui. Je vais vous citer un petit peu ce qu'il dit, et puis je vous demanderai une réaction. Donc je cite, « Je m'appelle Pierre, je me lève tous les matins à 5h pour aller taffer, et j'en ai plein le cul. » Donc c'est un peu vert, mais c'est comme ça. J'ai monté mon entreprise donc de peinture au mois d'août 2015. C'est difficile car les clients ne paient pas toujours. Je viens d'aller voir mon comptable et voilà qu'il m'annonce qu'au mois d'août, le RSI va me prendre 3 556 €. Et le trimestre d'après, 8 550 €. Il se demande donc à quoi ça sert d'aller travailler. Ma question, c'est sur le RSI. Voilà, il fait pas l'unanimité, il fait l'unanimité contre lui. Sévèrement critiqué, pardon, depuis pas mal de temps dans de multiples rapports. Quel est votre avis là-dessus? Que peut-on faire? Que pouvez-vous faire à votre niveau, en tout cas, sur ce dossier?
Alors, le RSI, moi, j'y cotise, hein, étant TNS, donc je le connais. Nous, les chambres consulaires, on ne gère pas le RSI. C'est les organisations patronales qui gèrent ce RSI. Par contre, on a un rôle de lobbying et surtout on a un rôle de lien, c'est-à-dire qu'on peut mettre, on est là au milieu pour créer un lien entre l'entreprise artisanale, l'artisan et le RSI. On a des relations qui sont particulières. Ce que moi je déplore, c'est que ce RSI, vous vous mettez à votre compte, c'est quasiment les premiers qui vous écrivent en vous disant « vous nous devez tant ». C'est abominable comme ça fonctionne. Donc, il a une image déplorable parce que il y a eu d'énormes erreurs informatiques, hein, puisque si on rappelle l'histoire, le RSI c'est le rassemblement des caisses de retraite AVA et des caisses organiques pour les commerçants, et aujourd'hui c'est l'URSSAF qui en a la gestion, sauf qu'à chaque fois il y a des systèmes informatiques, et le croisement de ces systèmes informatiques a fait qu'il y a eu des bugs énormes, et en plus à ce moment-là ils ont fermé les téléphones, ils se sont coupés du monde. Donc aujourd'hui on a eu des erreurs comme ça, et le fait, c'est vrai que cet artisan il se met à son compte, quasiment le premier qui vient le voir c'est le RSI et pas les clients, c'est catastrophique. Donc moi je le comprends, mais même si ça va un peu mieux en mieux.
Il n'est pas tout seul et il y a des discussions qui avaient été engagées, on a souhaité qu'il bascule dans le régime général, il y a même des voix qui s'élevaient pour dire faut que ça se fasse en 2017. Aujourd'hui on en est où sur ce dossier-là?
Alors pour l'instant ça bouge moins, certains députés se sont mis sur le dossier. Faut quand même redire la vérité, quand on cotise au RSI, c'est quand même moins cher que dans le régime général.
Oui, mais on a des prestations qui sont moindres.
Les prestations sont un petit peu plus faibles, mais aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant, quand le RSI fonctionne bien, d'être au RSI que d'être au régime général. Demain, si le RSI bascule dans le système général, je suis pas certain que ce soit une bonne chose pour les artisans. Par contre, qu'on réforme ce RSI dans son fonctionnement, pour qu'il soit toujours pareil, plus efficient et qu'il fonctionne mieux, pour moi c'est la solution. De le mettre dans le régime général, on va être dans le pot commun, on va payer un peu pour tous ceux qui cotisent pas, etc., etc. Et l'artisan, il va encore payer plus pour peut-être plus tard encore moins de prestations.
Il y a un autre sujet dont on peut parler qui est toujours d'actualité aussi, c'est celui des micro-entreprises. Voilà, la micro-entreprise, vous l'avez un petit peu accusée d'être une concurrence déloyale. Et au final, aujourd'hui, on s'aperçoit que vous avez peut-être réussi à la raccrocher avec ces histoires de formation à la création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se monter en micro-entreprise doit suivre une formation pour la comptabilité-gestion, etc. Et c'est 220 € ou quelque chose, non? Vous connaissez le tarif? Sur le stage de 5 jours.
Alors le SPI, le 5 jours, il est pas obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent au minimum faire une journée, hein.
D'accord.
Quand on se met à leur compte. Non,
il est pas tout le temps annoncé comme ça. Enfin, en tout cas, on dit si vous avez pas le diplôme ou l'équivalent, ça serait quand même bien que vous fassiez les 5 jours.
C'est mieux parce qu'on a une entreprise on aura quelqu'un qui sera un meilleur gestionnaire.
Voilà, donc vous avez quand même réussi un petit peu à rattacher ça, voilà. C'est une position défensive, on en parlait tout à l'heure.
Non, nous ce qu'on veut surtout, alors c'est pas une position défensive. Moi ce que je veux surtout, quand vous avez aujourd'hui une entreprise artisanale, elle a une durée de vie moyenne de 7 ans. Les années passent, plus ça va, plus la durée de vie moyenne diminue. Moi, ma grosse inquiétude, c'est qu'on voit une qualité des entreprises qui se créent, qui est de moins en moins bonne. Avec la micro-entreprise, c'est un peu ce schéma-là. Donc moi, je suis très inquiet. Et c'est pour ça que le fait que ces stages de 3, de 4, de 5 jours en gestion pour les auto-micro-entreprises fera des chefs d'entreprise meilleurs en termes de gestion. Aujourd'hui, il suffit pas d'être un bon pro. Il faut aussi, voire plus, être un bon gestionnaire. Donc ces stages, ils ont pour effet d'augmenter la durée de vie de ces auto-entreprises et leur faire comprendre aussi qu'à un moment donné, c'est peut-être pas le meilleur choix et qu'ils reviennent dans le régime général. Mais c'est pas une position défensive. C'est aussi c'est protéger le consommateur par rapport à une qualité aussi d'entreprise. Quand vous avez affaire avec un auto-entrepreneur qui micro-entrepreneur qui hier vendait des chaussures puis demain se met plombier, pour le consommateur c'est quand même pas une sécurité.
Mais c'est toujours une concurrence déloyale pour vous ou pas?
Ça reste une concurrence déloyale quand l'auto-entrepreneur il paye pas de TVA.
Ils ne payent pas de TVA, c'est vrai. Mais ça va vous permettre, ces formations, de garnir un petit peu les caisses de la Chambre. Donc, vous allez avoir un retour sur investissement.
Puisque c'est
vous qui vous occupez. Enfin, vous vous occupez beaucoup d'eux. Et en échange, jusqu'à présent, vous n'aviez pas grand-chose en retour.
Alors, pour l'instant, on n'avait rien. C'est un coût de 150 voilà. 000 euros par an, on n'avait rien.
Ouais.
Aujourd'hui, on va voir un petit peu. Mais pour l'instant, il faut savoir que la DIRFIP, la Direction des Finances, ne nous règle rien.
Affaire à suivre. Et comme nous la quatrième partie,
la quatrième partie et la dernière partie de notre magazine L'Agora Parlons Vrai avec Vincent Gault, président de la Chambre de Métiers de l'Artisanat de l'Ain. Vincent Gault, une dernière fois, allez, les élections, la campagne. On a montré du doigt la présence de la Fédération du BTP et de la CGPME à vos côtés. Vous avez eu deux bons soutiens pendant cette campagne. Est-ce que vos adversaires ont raison quand ils disent que c'est l'indépendance de l'artisanat qui est menacée? Et êtes-vous réellement menacé par le grand patronat, puisque la Fédé du bâtiment est soupçonnée d'être le bras armé du MEDEF?
Alors ça c'est du grand n'importe quoi. Non. La Fédération du bâtiment aujourd'hui, il y a 70% des adhérents à la Fédération du bâtiment dans l'Ain qui sont des artisans, c'est-à-dire moins de 5 salariés. Donc c'est de la politique politicienne. Donc le MEDEF, on nous a taxé d'être des amis du MEDEF. Moi je ne connais même pas le président départemental du MEDEF. Le MEDEF n'a rien à voir dans cette campagne et la CGPME, ça reste des très petites entreprises. Donc il faut arrêter c'est des attaques qui sont, moi je trouve, de bas niveau. Et la Fédération française du bâtiment, il y a autant d'artisans qu'à la CAPEB ou autre.
Vous avez répondu, c'est une bonne chose. Maintenant on va passer au moment le plus important de cette émission, la nouvelle intervention de Didier Pobel qui piaffe d'impatience.
Je ne piaffe pas, mais on va quand même parler d'autre chose, si vous voulez bien, Vincent Gault, de choses un peu plus légères. C'est la tradition de cette émission, de vos goûts et de vos affinités. On a évoqué tout à l'heure la cuisine, on va pas y revenir. Mais vous avez une autre passion. J'ai dit tout à l'heure que on reviendra sur votre instrument de musique de prédilection, c'est la batterie. Pourquoi vous jouez de la batterie? C'est pour vous défouler? C'est pour affirmer votre goût de mener les choses à la baguette? C'est quoi cette passion pour la batterie?
Bah, en fait, c'est venu très simplement. Ça fait très longtemps que je voulais jouer d'un instrument, mais j'ai jamais eu le cran. Et puis, en fait, mon épouse s'occupe de la sauce de musique Musiscope sur Polia, elle est trésorière. Et puis, un jour, elle me dit, mais tu sais, il y a un prof de batterie qui est super, et il prend des adultes. Je lui dis, bah, pourquoi pas? Puis, vous savez, dans des petites écoles de musique, c'est plus accessible que d'aller au conservatoire. Donc j'ai essayé une première fois et moi ce qui me plaît dans la batterie c'est le contact, c'est le rapport qu'on a avec l'instrument. Il y a un rapport physique et ça me plaît parce que j'ai besoin de me dépenser et c'est ça qui me plaisait. Et puis maintenant c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un prof, Hervé Humbert, je le nomme parce que c'est quelqu'un qui est connu au niveau régional, qui est quelqu'un je trouve exceptionnel et qui m'a fait passer sa passion et on joue autant qu'on échange sur la musique, sur le rock, sur plein de choses.
Ça fait pas trop de bruit, vous jouez chez vous, vous avez peut-être trouvé un bon artisan pour l'isolation?
Alors j'ai une batterie à la maison, en ce moment je l'utilise pas beaucoup, donc je suis pas très sérieux, parce que ce mandat de président me prend beaucoup beaucoup de temps, mais sinon je joue quand je fais mes cours, au moins une à deux fois par semaine, et puis on a un atelier rock, donc où comme vous l'avez dit en introduction, je pratique avec un petit groupe avec ma fille, Anaïs, qui à 12 ans fait du cor d'harmonie. Donc du cor d'harmonie sur du Ibrahim Malouf ou du Green Day. C'est détonnant, mais je trouve ça assez génial. Et moi, j'en ressors toujours avec une patate terrible.
Vous aimez, on va rester à la musique, vous aimez aussi la chanson, je crois, la chanson française. Si je suis bien informé, on devrait même vous voir parmi le public d'Aitinox, je crois, ce samedi, pour applaudir une chanteuse qui veut de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Parlez-nous un peu de cette passion aussi pour la chanson, pour cette nouvelle chanson française.
Ah ben moi, je suis mélomane, j'ai toujours été, je me rappelle quand j'étais jeune, étudiant, j'achetais toujours le dernier des baladeurs les plus petits. À l'époque, il y avait les cassettes, puis pas les CD. J'ai toujours adoré la musique, la qualité de la musique et de me poser et d'écouter. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup la chanson française et même des chanteurs qui sont un peu plus âgés que moi. En ce moment, j'écoute du France Gall dans la voiture. Donc j'aime bien moi les chansons à texte et puis
des branches.
Ça me débranche.
Bon, voilà. Artisan, c'est bon.
Hein. Ouais, j'adore la chanson comme ça. Je peux écouter du Serge Reggiani moi comme tout type. Pourtant Serge Reggiani c'est pas tout à fait ma génération, mais des chansons que moi je trouve magnifiques dans le texte, dans le souvent beaucoup de y a des valeurs humaines dans tout ça et moi ça me touche.
Autrefois, si j'ai bonne mémoire, les artisans chantaient tous en travaillant. Il y a même une célèbre chanson de Maurice Chevalier qui est la chanson du maçon, ce profil. Oui, c'était peut-être plus italien. Aujourd'hui, ils chantent plus. J'ai pas dit qu'ils déchantaient, mais on chante plus en travaillant.
Ah non, on chante plus, on chante beaucoup moins. Alors, maintenant, il y a la barrière de la langue, parce que sur certains chantiers, il y a un peu toutes les langues. Mais enfin, on pourrait chanter en toutes les langues, ça pourrait être sympa. Non, ça chante moins. Les jeunes, alors je sais pas s'ils osent, ils osent pas peut-être, je sais pas.
J'avais également une question sur la lecture, elle revient si rituellement dans cette quatrième partie. Je la pose en catimini, parce que vous m'avez dit que quand vous auriez un livre, vous vous endormiez, mais je sais que vous venez de lire Jacques Attali. Mmh. C'est une ouverture, c'est un signe d'ouverture de votre esprit. Jacques Attali, c'est pas forcément votre tasse de thé, a priori.
Non, c'est parce que quand il fait des bouquins, il est plutôt réformateur. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'il a des pistes, je trouve, intéressantes. Et il a dans un de ses ouvrages beaucoup parlé des chambres consulaires, et il a même remis en cause son utilité. Donc moi, ça m'interpelle, mais il a raison sur pas mal de points. Donc moi, je lis une presse comme ça parce que je trouve qu'elle est, ça peut que nous enrichir et nous remettre les choses dans le contexte et puis nous faire réfléchir pour l'avenir.
Vincent Gault, cette émission va se terminer, elle se termine quasiment en musique. Hein. Quand on joue de la batterie, c'est un peu compliqué de chanter en même temps. Hein. Il paraît que c'est
pas évident.
Ah, ils sont rares ceux qui y arrivent, ouais. Mais ça peut se faire. Hein. Phil Collins, par exemple.
Il n'y a que Phil Collins.
Ouais. Ouais. Eh bien, nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci encore. Au revoir.
Merci.